écoutez Logosphère sur les ondes d'Univers 99.9 et www.radio-univers.com.
Édition spéciale de Radio Univers en direct du village du Festival de danse contemporaine et d'art vivant Extension Sauvage pour une heure d'émissions et d'interviews des danseuses, danseurs, chorégraphes et artistes invités.
Une émission in situ, en public et en plein air, cours des arts à Combourg.
Logosphère en Extension Sauvage, c'est ici et maintenant sur les ondes d'Univers. Vous êtes bien sur les ondes d'Univers 99.9 et le www.radio-univers.com à l'écoute de l'émission Logosphère, édition spéciale de Logosphère en direct du village du Festival de danse contemporaine et d'art vivant Extension Sauvage à la Cour des Arts de Combourg, une émission de Logosphère en direct in situ et en public pour une heure d'entretien, ce soir même, avec les artistes invités durant tout ce week-end consacré à la danse contemporaine, une heure donc d'émission. Avec quatre artistes avec nous ce soir et qui ont joué ou joueront leur spectacle durant ce week-end. Volmir Cordero pour ce spectacle Outre-Art. Il y aura Russ Childs et Cécile Bouffard pour Delicate People et Sorour Darabi pour Farsi. Une émission que j'ai la joie et le plaisir de co-animer durant cette heure avec Sarah Perrucel, médiatrice pour le festival Extension Sauvage. Bonjour à toi, Sarah.
Bonjour Mathieu et bienvenue à tous les quatre. Alors on va parcourir chacun votre tour un petit peu vos parcours, vos œuvres. On va commencer avec Cécile et Russ Childs et Cécile Bouffard parce que Cécile, tu dois rentrer à Paris ce soir en voiture depuis Combourg. Alors pour revenir un petit peu sur vos parcours, Russ Childs, vous êtes née à Londres et vous avez grandi aux États-Unis. Vous avez étudié la danse classique et également le contemporain. Vous vous êtes installée ensuite à Genève pour terminer votre formation de danseuse au Ballet Junior de Genève. Cécile Bouffard, vous êtes diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon. Vous avez travaillé sur les objets du quotidien dont vous aimez un petit peu détourner l'usage, les interprétations. Ensemble, vous venez de présenter la pièce Delicate People, donc le travail, l'association du travail du mouvement et de la sculpture. Donc, pour expliquer un petit peu aux auditeurs, ça s'est passé là ce soir dans le parc de l'Hôtel du Château. Rousse, vous avez dansé, vous avez joué avec les sculptures de Cécile, vous vous êtes inséré dedans, vous avez fait provoquer des images et des symboles dans l'imaginaire des publics qui étaient présents. Alors, est-ce que vous pourriez déjà nous parler un petit peu de votre rencontre, toutes les deux, et pourquoi ce spectacle ?
Bonsoir. Merci beaucoup. Tu veux commencer, Cécile ?
Non, vas-y.
C'était lors d'une présentation d'un spectacle de moi-même, de ma compagnie, à Paris. Cécile a vu mon travail et elle a reconnu quelque chose dans mon façon de travailler le geste, d'être en performance. Et spontanément, elle m'a proposé de se rencontrer et on ne se connaissait pas. Et c'est assez rare que ça arrive comme ça. Elle a vu une complicité qu'ensuite on a confirmée en se rencontrant, en échangeant déjà nos parcours, nos références, des choses qui nous intéressaient. Et puis ensuite on a reçu une bourse pour faire de la recherche ensemble. Tu veux rajouter quelque chose ?
Alors oui, du coup, vous connaissiez, quand vous êtes allé voir ce spectacle, vous aviez déjà vu le travail de Rousse et vous aviez un peu dans l'idée d'aller la voir à la fin du spectacle ?
Non, pas du tout. J'ai découvert et en fait, bon, moi, j'ai vu dans son... C'était Fantasia, j'ai vu quelque chose, certaines figures, certains signes, certaines choses j'abordais moi dans mon travail et il y a eu un bord plateau à la fin du show. Et comment tu abordais justement ton travail et ta façon de travailler, c'était très intuitif en fait. Et donc je lui ai proposé à la fin, est-ce que tu veux qu'on travaille ensemble ? Voilà.
Donc alors, vous n'aviez pas l'air tout à fait convaincu quand j'ai parlé des usages du quotidien sur les sculptures. Alors,
oui, parce que c'est toujours assez... En fait, justement, il y a dans les sculptures, dans mon travail plastique, qui est hors cette collaboration, il y a eu justement, tout à l'heure je parlais de signes, il y a des choses qui sont piochées, prises dans des objets dans lesquels on a l'habitude de l'usage, et les projections de prise, de préhension, de rapport à. Mais pas enfin, oui, c'est le quotidien, mais moi, c'est mon quotidien, c'est un peu, voilà, c'est quelque chose qui est assez poncif. Et du coup, en voyant comment Rousse travaillait, on a commencé à travailler ensemble lors de cette résidence. Et du coup, il y a eu des... Parce que dans mon travail, j'utilise beaucoup une grosse iconographie. Et justement, il y a des objets de tout type. Il y a des peintures, il y a des sculptures, il y a des choses, même des façons de prendre les choses, d'accrocher les choses. Tout ça, c'est un truc que j'ai. Et puis de la littérature et des choses. Et on a partagé des images,
Oui, ça joue au palais derrière nous.
Des personnages aussi, des comportements. Par exemple, moi, je m'intéresse beaucoup à la figure, des figures en marge, et dont celle de l'ermite, par exemple, figures en marge. Et bref, et voilà, il y avait ça dans certaines choses. Et on a échangé à propos de ça. Et toi aussi, tu t'intéressais à des trucs, sur les comportements, par exemple, de répétitifs. Et moi, il y a des choses qui m'intéressent dans les tocs, les tics, les bugs, tout ce qui rompt un peu, justement, avec une linéarité, une narration linéaire. Et je peux dire beaucoup... Enfin, si tu veux...
Mais, pardon. En fait, donc, pour qu'on... Comment ça s'est passé concrètement? Alors, on va parler un petit peu vraiment du travail... Comment vous avez imaginé spectacle? Vous avez, Cécile, d'un côté, fait dans votre coin les sculptures, ou vous avez tout fait ensemble, en fait? Vous avez designé avant, vous les avez dessinées, et vous avez pensé le mouvement en même temps que vous façonniez l'objet?
Alors, bon, on a eu la chance de recevoir une bourse de recherche, justement, j'ai cité avant. En 2021, on a eu 4-5 semaines ensemble à la BEC en Suisse, c'est un lieu de résidence d'artistes. Et on a vraiment passé ce grand mois ensemble, d'abord, comme Cécile a cité, partager nos références et nos iconographies. À retrouver des points communs, des nouvelles choses. Et ensuite, Cécile, elle a commencé à dessiner des sculptures par rapport à nos discussions et aussi par rapport à ce qu'elle voyait de moi, de mon corps, de mes propres comportements. Moi, j'étais aussi influencée par le corps de Cécile, par ses comportements. Déjà, entre nous, il y avait un échange qui se mettait en place, mais voilà, il y avait une deuxième phase un peu de dessin, de rêver, de projeter. Et puis après, pendant ce mois, à la fin, Cécile, elle a commencé à construire les sculptures. Et ensuite, il y avait la troisième phase où moi, je les ai rencontrées physiquement et j'ai répondu, réagi chorégraphiquement avec mon corps. Mais du coup, comme c'était fait sur mesure, il y avait quelque chose qui a tout de suite pris. Il y avait une grande complicité que Cécile avait projeté déjà et puis que moi je ne connaissais pas. C'est vraiment quand j'étais avec les sculptures, j'ai dit « Ah, Cécile avait raison, il y a quelque chose entre nos deux univers qui matche bien ».
Comment avez-vous composé justement la pièce en tant que telle, Delicate People?
Au départ, on n'avait pas mis de contraintes, on ne s'était pas dit on va faire une pièce. On a dit qu'on allait se rencontrer et puis qu'on allait errer ensemble. On n'a pas... parce que en fait, on a tout de suite eu... des choses, ils ont marché rapidement entre nous. Du coup, on a décidé de partager, mais on n'était pas dans une production typique de « on cherche des fonds, on a une date de première », on a vraiment... commencer à partager le travail à fur et à mesure, assez tôt aussi, assez frais, quand c'était tout frais, tout fragile. Et donc, les 4-5 sculptures ont amené 4-5 motifs qu'on a pu partager assez tôt. Moi, j'ai, en fait, à vrai dire, j'ai, j'active des choses moi-même et j'ai parfois l'impression que les sculptures me chorégraphient. Il y a des prises, il y a des endroits, et ça s'est venu un peu tellement organiquement, c'est assez fou. Et après, j'ai beaucoup filmé, on a beaucoup discuté, Cécile a beaucoup regardé, mais c'était très, très intuitif et organique. Et ensuite, quand on a partagé, on sentait que c'était des choses qui pouvaient être regardées, qui pouvaient aller dans une sorte de performativité. Et du coup, petit à petit, on a écrit ensemble les motifs que vous avez vus aujourd'hui. Et ce qui est hyper chouette, c'est que on peut activer ces motifs dans plein d'espaces différents. Donc là, on était dans un jardin. On a aussi expérimenté ça dans des espaces plus neutres, dans des musées. Voilà, c'est très modulable.
Est-ce que vous pourriez nous parler des sculptures ? Elles sont très différentes les unes des autres.
Oui.
Elles ont quelque chose de très organique pour le coup aussi.
Oui.
On dirait presque des os.
Un certain.
Alors après, chacun y
du
voit.
Du fait de l'organiser. Enfin oui, du fait. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont injectées. Par exemple, quand on travaillait dessus, l'objet qui est assez long, il y a un objet dans la pièce qui est assez long, on dirait. C'est entre un râteau, une perche, une faux, comme un bec d'oiseau. Enfin, c'est pareil, moi, ça m'embête toujours de poser des mots dessus, parce que justement, c'est toujours l'espèce de mouvement dans la sculpture même qui ne fiche pas ce que c'est, et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec une performeuse, danseuse, parce que justement il y a le mouvement, et moi c'est un truc qui m'intéresse dans mon travail de sculpture, et du coup c'est aussi pour ça que ça fonctionne, parce qu'il y a une ambiguïté comme ça tout le temps, et le truc de la définition, c'est pareil, c'est voilà. Et justement les sculptures, elles sont faites en bois, assemblées et poncées et peintes, et du coup à chaque fois on se dit, ah, est-ce que c'est du plâtre, ou je ne sais, de la résine, etc. Et en fait, voilà, de tromper un peu sur les matériaux et du fait, ça devient organique parce qu'il y a une espèce de porosité et de non-arrêt sur ce que c'est. Voilà.
D'un point de vue purement technique, il y a des endroits où la sculpture est entourée d'un tissu ou on dirait presque du cuir, de la peau.
C'est du latex, ouais.
C'est du latex.
Là, ouais.
Ça remplit une fonction technique, esthétique aussi.
Non, ouais, enfin, oui, c'est pareil, c'est d'injecter. Enfin, c'est esthétique, comme, mais ça renvoie à, là. Oui, voilà, là, c'est très. Alors, là, pour cette, en tout cas, par rapport à d'habitude dans mon travail, là, en tout cas, pour là, ponctuellement, il y a ces trucs de prise directe. Et justement, là, le bandage, le un peu d'outils archaïques, enfin, le truc basique, on entoure le truc, on va mettre la main, quoi, pour un support. Et,
mis à part l'imaginaire, quand on a nourri ensemble, entre les références, les iconographies, des récits qu'on a rassemblés ensemble, il y avait aussi juste la notion plus abstraite d'un rapport de toucher à la sculpture de Cécile. Et du coup, les prises qui m'offrent ces pièces vont bouger mon corps aussi. Juste le fait de sentir que là, c'est différent que là. Et du coup, ça me donne envie d'aller voir. Et puis, mais c'est justement pas forcément des prises techniques, c'est des prises qui ouvrent des possibilités. Et c'est ça qui est chouette, que je suis pas que dans. Je suis en train de nourrir mon imaginaire avec des personnages, avec des figures, mais aussi par la toucher, par la sensation.
Donc les mouvements émergent justement du mouvement des sculptures.
Oui, c'est ce que je disais. Des fois, j'ai l'impression que je suis chorégraphiée par l'objet. Ouais.
En tout cas, on a aussi envie, nous, de toucher la sculpture. C'est tentant, en tout cas, quand on est dans le public. Je ne sais pas si ça arrive parfois.
Enfin, je vais rajouter un truc qui est hyper agréable de travailler avec Rose, qui est hyper précise et qui a une espèce d'intuition Enfin, parce que là, on parle des sculptures et tout, mais juste, c'est aussi, enfin, c'est le, justement, la rencontre qui a marché, c'est de ça. C'était que c'est, bah, c'est hyper, c'est du luxe de travailler avec quelqu'un comme ça parce que ça fonctionne.
Bah, c'est une chance de se rencontrer, effectivement, de se comprendre et que ce qu'on crée, ça. Ça se transmet et c'est, je ne vais pas dire sublimé, mais en tout cas, on y voit une réponse.
Ce spectacle, il est joué en extérieur, principalement.
Il est vraiment une situation. Enfin, ça dépend. C'est... Et c'est aussi agréable d'ailleurs de tester plusieurs endroits. On l'a fait au Grutli, par exemple, à Genève, et c'était dans un black box et. Et c'était différent et les mouvements sont beaucoup plus ténus et précis. Enfin, il y a un truc beaucoup, une lecture différente. En fait, c'était vraiment un truc de, évidemment, de perception, mais d'attention. Comme c'est une pièce, il n'y a pas de son. C'est pour ça que je parle de la précision de Rousse aussi. C'est ça, c'est si il n'y avait pas cette précision, je pense qu'on se perdrait à des endroits. Enfin, et du coup, quand c'est dans à l'intérieur, enfin, il n'y a pas. Et les images sont pas les mêmes, parce que forcément, quand on regarde un paysage, il y a tout le truc bucolique, tous les référencements qui sont pas les mêmes. Et ça, c'est intéressant, justement, de switcher un peu, c'est un peu comme des diapos.
Très bien.
Aussi, quand on n'est pas à l'extérieur, il y a un bon son, forcément, de la ville ou de la nature. Mais à l'intérieur, on entend plus les sculptures. Ils ont aussi, par... Si je touche le latex, ça va faire un bruit. Si j'ai les doigts en bois aussi, au sol, ça va faire toc-toc. Il enfin, y a une autre musicalité qui sort de la pièce.
Très bien.
Merci. Alors, on va peut-être du coup vous libérer, puisque vous avez un trajet ce soir.
Merci.
Merci. Et du coup, je vais enchaîner avec vous, Sorour. Vous questionnez aussi les identités, les objets, en tout cas le genre des objets. Alors, pour vous présenter, vous êtes artiste transgenre, né en Iran. Vous avez découvert la danse dans les milieux underground et de votre pays d'origine. Et vous êtes arrivé en France en 2013. Et vous y avez suivi des études de danse au Centre chorégraphique de Montpellier. D'où vous venez aujourd'hui, vous avez pris l'avion aujourd'hui. Alors demain, vous allez nous proposer au Château de la Balue un spectacle qui s'intitule Farsi, où l'on vous voit dans un silence le plus total, vous dirigez vers une table avec une chaise et commencez à avoir des figures un petit peu grotesques, étonnantes, mystérieuses, dans, voilà, encore une fois, le silence le plus total. Et à un moment donné, quelque chose d'assez surprenant, vous jouez avec une pile de feuilles qui est devant vous, des documents, et vous commencez à les ingurgiter. Alors, qu'est-ce que cet acte signifie ?
J'habite pas à Montpellier, hein. J'habite à Berlin. Montpellier, je pense que je me suis forcée à rester 2 années. Et
ça ne vous a pas plu ?
Bah, non. De parler de spectacle, c'est une performance qui a été créée en 2016. Ça veut dire que ça fait à peu près 8 ans. Donc, c'est toujours très intéressant de rencontrer ce parcours parce que c'est un peu moi, mature, qui rencontre et revisite quelque chose de ma jeunesse, même si je suis toujours super jeune. Donc, le travail parle de la question de la langage et l'identité de genre. C'est une question que je me suis beaucoup, beaucoup posée. Quand je suis arrivée en France, en intégrant dans la culture française, apprenant la langue française, parce qu'il y a cette différence très importante entre la langue française et ma langue maternelle. Ce qui est, dans la langue française, on attribue un genre à tous les êtres et les objets, mais dans ma langue maternelle, cela n'existe pas. Ça veut dire que la question... On attribue le même genre à tout le monde et aux objets aussi. ce qui est un peu, ça raconte d'une certaine manière historiquement un rapport avec l'identité de genre dans ma culture qui est beaucoup plus ancienne que le rapport actuel que tout le monde le connaît et on peut en parler de manière un peu plus cliché. Mais ce qui était très intéressant pour moi, c'était de savoir de manière un peu plus historique et dans un rapport de langage ce qui racontait genre et l'identité de genre dans ma culture. Donc voilà, je suis partie sur ce point de départ pour arriver à comprendre d'une certaine manière c'est quoi un discours sur l'identité de genre dans une langue où on ne peut pas éviter cette question d'une certaine manière. Donc voilà, d'où ça vient un peu cette performance. Ce qui est un peu d'inventer pour moi d'une certaine manière un nouvel langage qui n'est pas dit mais qui est plutôt d'une certaine manière ressenti. Et après il y a aussi tout un rapport de regard dans ce projet là. Je pense que c'est un rapport aussi par rapport au fait au-delà de la présence théorique de cette question, qu'est-ce que ça raconte de manière générale politiquement et socialement, cette question-là. Donc, il y a tout un rapport aussi de regard dans ce projet qui est créé de manière très tendue avec les spectateurs, qui essaye de renverser ce rapport de pouvoir à un certain moment. Donc, ça joue beaucoup sur le rapport de pouvoir de plateau et gradin. Et ce rapport de surveillance, qu'est-ce que cela ça raconte pour un corps minoritaire sur un plateau en plein milieu de l'Europe, en France ou ailleurs en Europe de manière générale? Comment jouer avec ce rapport? Comment le renverser? C'est quoi les endroits de vulnérabilité de ça? De jouer avec tous ces rapports-là. Ce qui est très intéressant aussi dans ce projet, c'est que c'est pas de rencontrer le rapport de pouvoir de manière... des fois, c'est de manière très radicale, bien sûr, mais aussi, c'est des enjeux un peu plus subtils. C'est des enjeux aussi de la vulnérabilité. Moi, en tant que quelqu'un qui est minoritaire, en rapport avec une grande majorité, c'est quoi aussi mes endroits de vulnérabilité et qu'est-ce que c'est cette importance aussi de partager ça d'une certaine manière. Donc voilà, c'est un peu de parler de projet. Et après aussi, c'est un début, je pense, de mouvements révolutionnaires aussi en France et aussi dans d'autres pays européens vis-à-vis de la question de genre, l'inclusion dans le langage au quotidien, aussi de manière un peu plus politique, comment ça se reçoit ou pas. Aujourd'hui, je pense qu'on est un peu plus avancé là-dessous. Il y a plus ou moins un travail qui est en train de se faire vis-à-vis de... intégrer un troisième genre un peu neutre, un peu parce que je dis langage c'est autre chose que un rapport politique et social. Donc voilà.
Par le genre neutre, donc vous parlez du YEL, oui. Par lequel vous aimez.
Non, moi je suis un homme aujourd'hui. Je m'identifie en tant que personne non binaire, mais ça fait depuis un moment que je me suis déménagée à Berlin. Et maintenant, je m'identifie en tant qu'homme.
En relevant, comme vous le faites, l'étrangeté de la langue française qui met un sexe aux objets et aux idées, il y a une grande matière à rire aussi. C'est une parodie, ce spectacle que vous proposez. Il y a une parodie de cérémonie officielle. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça? Du choix de la parodie.
Ah non, alors, on dit.
En fait, oui, ce que je veux, parce que c'est vrai que Mathieu, on entend.
On entend pas très bien. C'est non dit que tu as dit.
Non, c'était en fait, dans ce que vous proposez avec Farsi, vous parliez du rapport d'autorité, mais Il y a aussi ce moment où ce silence qui s'installe, ces regards, et qui peuvent aussi, à certains moments, provoquer l'humour, en fait, parce qu'il y a un tel décalage. Est-ce que c'était important pour vous quand vous avez créé le spectacle? Parce qu'en fait, quand on vous voit arriver, ça crée aussi des images, et on peut très bien se dire, on va avoir droit à un discours, on s'attend à une conférence, presque, une présentation officielle. Et en fait, c'est pas ça qui se passe. Et du coup, ça peut déclencher des rires. Est-ce que vous avez l'habitude? Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez imaginé quand vous aviez conçu le spectacle?
Oui, je pense qu'il y a un côté clown aussi là-dedans qu'on a beaucoup travaillé, mais de manière très subtile, parce que c'est un travail très hybride en fait. C'est aussi pour ça que c'est très intéressant pour moi de le rejouer encore, et je pense que c'est toujours pour ça aussi qu'on m'invite à le jouer, parce que c'est quelque chose, c'est un entre plusieurs choses qu'on n'arrive pas trop capter exactement dans quelle box on peut le mettre. C'est ce qu'on cherchait depuis le début du projet. Je pense aussi, de manière générale, mon travail, il est très genre entre plusieurs choses, et il évite un peu être casé quelque part. C'est un peu aussi mon identité, voilà. Donc, c'est par rapport à ça qu'on vous voyez qu'il y a un rapport aussi de être clown ou pas être clown. Ça a aussi un rapport avec un corps minorisé, un corps queer, parce qu'un corps queer, sa présence sociale, c'est en tant qu'un clown. Ça veut dire que des fois, vous avez entendre les gens qui rigolaient sur vous parce que votre style de vestimentaire, ça correspond pas trop au goût blanc conservateur français. Du coup, il y a un endroit de décalage que les gens, ça fait rire les gens. Donc, je pense qu'il y a un rapport aussi par rapport au fait d'être une personne queer, d'être une personne trans, parce que être une personne trans aussi, ça veut pas dire que aujourd'hui, vous faites votre coming out et le lendemain, vous ressemblez à ce que vous avez promis à tout le monde. Il y a tout un parcours, il y a tout un processus, il y a une transition qui se fait au choix de chaque personne. Du coup, pendant ce parcours-là, les choses peuvent passer très violemment. Ça veut dire que vous pouvez vous faire genre rigoler par un tas de mecs dans la rue, vous pouvez vous faire violer, ce qui m'est arrivé à Paris. Vous pouvez vous faire genre harceler dans la rue, parce que c'est juste que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre en fait qu'il y a les gens qui ont un processus de faire un changement, sont un peu, voilà, sont pas des personnes hétéro, blancs, conservateurs. Donc, c'est par rapport à ça aussi que sera ce projet. Il répond d'une certaine manière dans son rapport avec les spectateurs, dans son rapport avec un clownness, dans un rapport avec aussi d'un côté plus vulnérable, d'un côté un peu plus sérieux, et aussi le fait qu'il y a une tendance de l'avoir mise en forme d'une conférence, c'est aussi de représenter d'une certaine manière de représenter en fait qu'est-ce que c'est matièrement parlant la théorie. Voilà, parce qu'on a beaucoup beaucoup de théories, on est surtout, je pense que la France de manière générale, c'est un pays qui penche beaucoup sur le côté intellectuel, qui n'avance pas trop sur un côté plus pratique. Voilà, aujourd'hui on voit très clairement le résultat, on est en train de tomber sur l'extrême droite de manière doux. Donc, je pense que...
C'est jamais doux, l'extrême droite.
Je rigole. C'était une blague de dire de manière doux. Ça s'est passé doucement, mais doucement dans une violence. Violence, c'est pas très doux de manière générale, même quand ça se passe doucement. Donc... je pense que, voilà, de manière générale, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai un peu...
On intellectualisait trop les choses, et
donc,
pas forcément...
C'est un peu aussi de parler, est-ce que ça vaut le coup toujours d'aller sur un plateau, de parler de ça? Qu'est-ce que ça, ça représente? Qu'est-ce que ça construit? Qu'est-ce que ça déconstruit d'une certaine manière? C'est aussi dans une tendance de déconstruire un discours. Un discours où on n'y arrive nulle part, en fait, d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça représente politiquement parlant, socialement parlant, dans un rapport être humain à être humain? Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir aussi ce côté même pas théorique, comment ça s'est toléré. Des fois, genre, cette performance s'est reçue de manière très violente, bah, pas violent pour moi, violent pour la planète. Il y a des gens qui, voilà, qui, j'ai eu des spectateurs qui retournent leur dos, qui quittent la salle violemment parce qu'il y a un endroit que ça touche chez les spectateurs qui ne le tolèrent pas, même si c'est quelque chose qui n'est pas dit. Et je pense que c'est encore plus résonnant dans ce genre de rapport que d'aller raconter toute une théorie, plaire à tout le monde, qu'on sache bien comment parler des choses. On a lu des livres et que de comprendre en fait que ça ne sert à rien tout ce qu'on fait. De lire des livres, aller parler bien, utiliser les bons mots. Ça, tout ça, c'est encore plus en plus rebondir et reconstruire cette culture de conservateur, et cette culture de blanc intellectuel. Voilà, c'est genre.
Mais du coup, ce rapport que vous allez chercher, là pour l'instant, les spectacles, vous les avez faits en Europe. Alors peut-être que ma question est stupide. Est-ce que vous l'avez déjà fait en Iran? Est-ce qu'un jour, vous aimeriez le faire en Iran?
J'ai déjà performé cet spectacle en Iran en 2017. C'était la dernière fois où j'ai voyagé dans mon pays. Aujourd'hui, je ne peux pas y aller. Donc, je l'ai joué dans une scène underground, parce que moi, je viens de scène underground. Et donc, c'était super bien reçu, bien sûr. Et voilà, c'était une expérience exceptionnelle pour moi d'avoir partagé ça, parce que aussi, ayant quelqu'un qui est, genre, disons, artiste en exil, du coup, voilà, on est un peu loin de ce que ça pourrait être, d'une certaine manière, notre vocabulaire à nous à partager dans notre culture, les codes très différents. Mais je pense que j'étais même très étonnée que j'avais même pas besoin d'en dire plus que ça. Je pense que c'est aussi parce que moi, ayant né et grandi en Iran et avoir vécu pendant plusieurs années en Europe, j'ai aussi construit toute une manière de pouvoir créer les choses qui peut être accessible pour les différentes cultures. Ça veut dire que c'est très accessible pour les Européens. Ça donne différentes accessibilités. L'endroit où c'est accessible pour, par exemple, les gens issus de ma culture, c'est très, très différent avec les Européens. C'est des accessibilités complètement différentes. Et ce qui est très important aussi pour moi dans mon travail de manière générale, c'est donner l'accessibilité. C'est pour ça aussi que j'évite trop aller dans le côté intellectuel, de codifier les choses d'une certaine manière que ça peut juste plaire aux gens de l'art. En fait, c'est aussi parce que c'est pas dans une pensée gauchiste. Je pense pas que je suis de gauche, parce que je crois vraiment pas le gauche, surtout blanc. Mais c'est juste une pensée libre de pouvoir donner accès en tant qu'artiste à du monde, genre, que de penser les choses plus accessibles d'une certaine manière. Donc je l'ai joué pas justement en Europe, je l'ai joué aussi en Turquie, j'ai joué à Beyrouth. Voilà, mais après, on reste toujours restreint de côté ouest, genre de l'Europe, même pas l'Est, parce que d'où ça vient l'argent, en fait. Un artiste ne peut pas aller jouer n'importe où. Voilà. Aujourd'hui, être international aussi, ça veut dire jouer en Suisse, France, un peu Allemagne.
Merci. Et donc du coup on vous retrouvera demain au château de la Balue, en extérieur. Vous l'avez déjà joué en extérieur, ce spectacle?
Non, c'est la première fois. Je suis curieuse de voir comment ça va se passer, parce que c'était toujours entre les murs Il y a tout un rapport hyper concentré et hyper tendu aussi avec les spectateurs qui était toujours très important. C'est un rapport aussi très délicat avec l'objet, avec les petits bruits de la bouche, la salive, l'eau, des craquements. Donc, on va voir.
Eh ben, merci beaucoup, Sorour Darabi. Mathieu.
Merci. On va faire juste une petite pause musicale pardon, avec Rocío Márquez, Demi.
Se ha secado el azahar, flores de nuestro amor. Era no puedo hacer nada porque no se mueran. Si luego la luna ya nunca está en mi noche oscura, te fui a buscar. Dijiste que era una y no más. Me rompiste el alma, no puede sangrar. No puede sangrar.
Vous êtes toujours sur les ondes d'Univers 99.9 et le www.radio-univers.com en direct du festival Extension Sauvage. Et nous sommes avec Volmir Cordero pour le spectacle Outre-Art qu'il a joué cet après-midi en face de l'étang. Un spectacle Outre-Art donc dans le cadre de ce festival Extension Sauvage.
Alors, on va revenir, avant de parler du spectacle, on va revenir sur votre parcours, Volmir. Alors, vous êtes né au Brésil. À 24 ans, vous avez intégré le Centre National de Danse Contemporaine d'Angers. Et vous êtes venu donc pour présenter Outrard, alors pour donner une image aux spectateurs, aux auditeurs, vous êtes habillé dans ce spectacle de multiples couches de vêtements colorés. Vous avez une longue perruque suspendue à votre nuque et vous avez un maquillage outrancier, rose et orange fluo qui vous recouvre l'entièreté, l'intégralité de votre visage. Alors ces vêtements, vous allez jouer avec, vous allez les retirer progressivement, vous allez leur faire prendre des formes et vous allez aussi énormément vous tourner vers le public pour l'interpeller et jouer avec, avec les personnes qui vous regardent. Alors, Outrard, en portugais, ça signifie l'autre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu d'où naît ce spectacle ?
Alors, en fait, Outrard, c'est un verbe qui a été créé par Fernando Pessoa. En fait, ça n'existe pas forcément, ni en portugais, ni en brésilien. Ça veut dire plutôt devenir l'autre. C'est-à-dire qu'il a mis AR pour donner la conjugaison, pour transformer l'autre en un verbe d'action. Donc, c'est comme une action de devenir l'autre en permanence. Ce projet, il est né du fait que Lia Rodrigues, une compagnie avec laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans au Brésil, il y a peut-être 12-13 ans maintenant, elle était censée jouer, faire une pièce dans un festival à Bruxelles, au Kunsten. Et c'était pendant la pandémie, tout ça. Donc, elle ne pouvait pas faire le voyage. Et elle a décidé donc d'inviter des personnes avec lesquelles elle a collaboré au Brésil, mais qui habitent maintenant en Europe, d'aller à sa place et faire quelque chose avec ça. D'où cette idée de devenir autre, dans un premier temps. C'est elle qui a nommé le projet comme ça. Et donc, on était 4 à créer 2 solos et 1 duo. À partir de la bande-son, elle nous a envoyé cette bande-son. Donc ça, c'était envoyé vraiment du Brésil en disant, vous avez cette bande-son, faites quelque chose avec ça. Et puis sa compagnie, composée de 12 danseurs, danseuses, qui faisaient des vidéos dans leur maison, aussi qui nous a envoyé ces vidéos comme une forme de contamination pour nous donner d'idées sur la gestuelle, sur la manière d'aborder le mouvement. Donc voilà, j'étais avec un drive avec 24 vidéos et puis la bande son que j'ai reçue par mail comme ça. Ilia m'a dit, vas-y, fais comme tu veux, il faut juste pas dépasser 25 minutes. Utilise la bande son et t'en approprie de cette chose-là. Et je venais de rentrer du Brésil un peu avant et j'avais passé dans mon village. J'ai récolté tous ces vêtements-là, parce que j'achète toujours des vêtements pour travailler, pour danser, comme ça j'adore avoir des choses dans la maison, j'adore penser aux costumes quand je suis en création. Et donc j'avais ces tas de choses qui n'ont pas fonctionné pour un autre projet, je les ai mis comme ça, il fallait le faire. Donc j'avais 7 jours pour créer ces solos, c'était quelque chose de très, très rapide dans l'immédiateté comme ça, et je peux vraiment aimer aussi ce type d'approche. Donc j'ai mis tous ces vêtements comme ça, j'ai entendu le son à plusieurs reprises qui m'a envoyé complètement cette atmosphère de la grotte, de la cabane, de quelque chose de renfermé qui allait de pair avec la situation de Covid et toute la gestion meurtrière qui s'est passée au Brésil de manière très compliquée avec le génocide Bolsonaro, qui faisait qu'il fallait vraiment retrouver les forces à l'intérieur de chaque maison, de chaque communauté. Et là, c'est venu ces mots, l'intériorité. Et c'est pour ça que quand j'ai mis tout ça, je me suis dit, bon, voilà, je deviens oignon. Il y a plein de couches. Et toutes ces couches, elles vont à un moment donné se confondre avec le noyau. C'est-à-dire, les écorces vont se mélanger avec le noyau. Et il y a une intériorité que je cache, quelque chose que je préserve. Et moi-même, je deviens une tente, je deviens quelqu'un de renfermé en moi-même pour créer une forme de protection aussi.
C'est un personnage... un personnage, ou du moins, c'est très intense comme spectacle. Il y a beaucoup de couleurs. La musique aussi est très, très intense. Est-ce qu'il y avait quelque chose de l'ordre du chamanisme ? C'est une question qui s'est posée à moi pendant le spectacle.
Oui, qui est souvent posée, mais c'est vrai que je ne sais pas trop répondre. J'ai pas pensé dans ces termes-là. Souvent, ça me revient à ça, mais ce n'est pas quelque chose que je cherchais, même si voilà, il y avait quelques mythes du folklore brésilien que j'adorais, où il y a la tête en feu, il y a l'épée retournée en arrière. Et je m'imaginais des fois dans ces personnages de la forêt qui est moitié animal, moitié feu. Et c'est pour ça que j'ai pensé à cette chevelure. C'était Mark Tompkins qui m'avait donné il y a longtemps. Et elle traînait dans la maison. Et je me disais, j'ai envie de transformer cette perruque dans une forme de feu. Parce que je voyais dans cette musique quelque chose de l'ordre de la terre. J'avais envie, la première chose que je me suis dit, j'ai envie de personnifier la terre. Ces côtés fertiles, colorés, fleuris, avec du feu, avec un corps qui est quand même endommagé, qui est en train de finir peut-être d'une certaine manière, qui est au bout du compte, qui ne va peut-être pas continuer. Et en même temps, on retrouve un peu de force, un peu de joie, parce qu'il y a cette intériorité qui est forte et qui peut à un moment donné se convertir en sirène, en l'eau, devenir aussi l'eau à la fin. Donc c'était plutôt de cet ordre-là, je pense. Et comme il y avait les 24 vidéos et j'essayais de garder les gestes que j'ai récoltés de chaque vidéo, qu'elle est de pair avec chaque couche, parce que voilà, j'ai 24 couches. C'est un peu la manière que j'ai construit pour trouver une stratégie de réponse à la situation contextuelle qui a généré le solo.
Alors, est-ce que vous aviez en tête 24 personnages du coup ? Est-ce que chaque vidéo représentait quelqu'un ? Parce qu'en fait, dans votre spectacle, vous parliez de l'abri, le fait de devoir un petit peu se replier sur soi pour se protéger de l'extérieur, qui était peut-être agressif, violent, dangereux. Mais il y a aussi la figure vraiment de l'exclusion. Il y a certains moments où on voit le mendiant qui va voir le public, qui demande de l'aide. Vous avez tous ces personnages-là qui sont très concrets, très visuels.
Voilà, il y avait aussi la contrainte que ça devait se faire dans une arène avec 4 par 4. C'était là où on allait jouer. Et moi, j'adore toutes ces contraintes, toutes ces commandes, en fait, tout ce qui décide, qui prépare un peu l'arrivée du geste. Et donc, j'essayais de... Évidemment, je savais qu'il y avait une proximité et l'adresse est un facteur chorégraphique avec lequel je travaille pas mal et j'aime beaucoup, en fait, ressentir le public. Et d'aller chercher ses contacts, d'aller faire communauté aussi au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'était moins le chaman et beaucoup plus le clown, d'une certaine manière, qui m'est apparu comme un intrus, en fait. Je voyais dans le clown ces personnages intrusifs qui font intrusion et qui va chercher à la fois le courage, le câlin, la communauté, l'autre, faire contact, faire peur. Et c'était beaucoup plus de cet ordre-là, en fait, la manière d'aborder. Après, c'est pas que chaque vidéo, il y a les 24, il y a des résonances avec chaque vidéo, mais après, il y en a beaucoup plus. C'est pas je dirais pas qu'il y a plusieurs personnages, mais il y a des cellules chorégraphiques comme ça que je monte selon les niveaux d'émotion que j'ai envie de composer, qui peut aller justement au geste de l'aumône, ou alors la joie carnavalesque, ou faire peur, ou alors la fertilité, aller récolter, s'aimer, faire la sémence. Voilà, j'ai profité de chercher des gestes très simples qui me mettaient dans cet imaginaire de travailler la terre, de poser un problème, de ne pas le résoudre, et en même temps de rester festif.
Alors, du coup, dans cette interaction que vous avez avec le public, j'avais relevé une phrase que je trouvais très belle. Vous parliez du visage et vous disiez que le visage, que c'était par là où commençait la danse, que le visage allait irradier le reste du corps. Votre visage, pendant le spectacle, quel rôle il va jouer ? Au même titre que les vêtements, tous les artistes n'ont pas forcément ce rapport-là à l'expressivité.
Pour ce solo, je disais que j'avais envie de ne pas regarder les gens. C'était mon but au départ. Et je le gardais vraiment, je pense, sur les premières 4 minutes. Après, j'ai lâché et c'était impossible de ne pas le faire. Mais il fallait commencer vraiment en train de regarder la terre et d'aller vers l'autre. Et c'est vrai que quand je regarde les pièces, je suis toujours très attiré par le regard des interprètes. Je trouve que c'est par là que je commence à accéder au travail de la danse. Et donc ça m'inspire aussi de concevoir en fait le travail du visage qui peut des fois compenser quelque chose qu'on a envie de dire et qu'on n'arrive pas à le dire complètement avec le corps. Comme les mains, il y a une espèce d'insuffisance expressive, quoi, quelque chose qu'on n'arrive pas à dire. Et du coup, on fait un peu avec la main pour voir si la main va compléter ou avec le visage. Et c'est là où l'éthique ou les extensions de l'expression commencent à apparaître. Et c'est pour ça que je vois dans le visage quelque chose qui doit... À la fois, c'est absolument inconscient. Je ne suis pas là en train de chorégraphier exactement où ça va avec l'émotion, avec le personnage que je conçois. Mais c'est important qu'il participe dans l'idée aussi que le public, il est visible pour moi. Il fait partie. C'est cette idée que c'est une masse anonyme devant des artistes en lumière. Je ne supporte pas cette idée-là. Donc, j'aime bien regarder le public et dire, mais vous êtes aussi visible, je vous vois aussi. Et selon votre posture, selon comment vous me regardiez, je vous regardiez différemment aussi. Donc, tout dépend de cette communication qu'on a dans ces moments-là. D'autant plus important de évoquer ou activer le visage du public aussi et de lui dire, mais surtout dans ce cadre-là, je pense que dans la campagne, dans l'herbe, c'est une belle occasion pour se voir, en fait. Je pense que c'était aussi le manque de Covid, quoi. On a perdu beaucoup en contact, on a perdu en regard. Donc, comment revitaliser cette chose-là au lieu de se perdre encore plus?
Comment vous l'avez vécu ce soir, à l'instant, le spectacle? Ça s'est passé il y a une heure et demie. Comment vous en êtes sorti? Dans quelle émotion vous êtes après?
J'ai trouvé ça très bien.
Et on confirme, on a tous adoré.
J'ai beaucoup aimé parce que, en fait, j'ai adoré ce lieu. Quand Marie Latifa m'a proposé deux lieux différents et on est allé regarder. Et on allait regarder d'abord plus proche, dans un autre espace. C'était tout ouvert et très beau, très joli, très romantique aussi. Mais quand je suis arrivée dans ces jardins-là et que j'ai vu ces espèces de cheveux, tout de suite j'ai pensé à ma perruque.
Oui, le sol pleureur, vous étiez.
Voilà, j'ai dit, je suis aussi le sol pleureur quelque part avec ces perruques-là. Et puis, le côté grotte, en fait, ça faisait la grotte et ça faisait vraiment la maison enfermée. Et du coup, ça correspondait totalement aux besoins, aux conditions dont j'ai besoin pour faire le solo, c'est-à-dire de l'intimité, de l'enfermement, un peu d'ombre aussi, ça fait du bien, et puis de cette nécessité de contact qui allait avec cet espace. Donc déjà, ça, le cadre était vraiment super, avec les enceintes, avec Ludovic, que si on a passé là le temps à nettoyer, à enlever. J'ai passé une heure et demie en train de préparer le terrain, j'ai fait une sieste dedans, pour essayer de m'imprégner un peu plus de l'espace, d'être dans ces contacts directs avec la terre, d'enlever des choses qui pourraient peut-être gêner la cheville ou faire mal en train de danser. Et je pense que tout ce temps de préparer le terrain, il était vraiment formidable, comme on peut avoir très souvent sur le plateau, ou dans le plateau, je ne sais plus, et que là, j'essaie de le refaire aussi. Et le fait de voir cette première couche de cheveux, de larmes, du sol pleureur, et ensuite le public, et puis les enfants aussi. Ça, c'était magnifique d'avoir les enfants, l'enfant qui rigolait tout le temps, ou l'autre qui avait peur. Je pense que tout ça, c'est ce que j'aime, en fait. C'est ce que je cherche, ces contacts immédiats, directs, la communication directe qui enlève le sérieux, la partie chiante du sérieux.
Oui, on voit que c'est ce que vous cherchez, le contact avec le public, vous donnez beaucoup. Et donc, moi, j'avais une dernière question. Vous avez fait ce solo et j'ai également entendu dire que vous aviez envie, vous aviez un petit peu souffert dans les précédents solos de la partie solitude du solo et que justement, avec ce solo-là, vous n'aviez pas eu l'impression de faire un solo, que c'était un solo collectif.
Oui, parce que déjà, il est transcontinental dans le sens que l'IA m'a proposé cette chose, celle qui a nommé le projet avec toute sa compagnie. Et puis qu'on était, on est trois compagnies en train de danser chacune son solo à partir de cette proposition-là. Parce qu'après, l'IA nous a dit, faites comme vous voulez, dansez où vous voulez. Elle a libéré les droits comme ça, elle a dit, c'est à vous. Ouais, dans ce sens-là, je ne me sens pas seule, même si aujourd'hui, il y a toujours un moment de solitude sans doute. Genre, les 3 heures, 4 heures avant de jouer, c'est solitaire, quoi. Le matin, on est avec la technique, ça fait du bien. Je connais bien le dos, je l'aime beaucoup. On travaille la terre, ça fonctionne. Et puis, il s'en va parce qu'il y a d'autres choses à faire. Et là, il a la solitude complexe. Mais j'ai mis d'autres musiques, j'ai dansé sur d'autres musiques que j'aimais dans cet espace-là. Donc oui, il y a toujours ce travail dur d'être tout seul. Et puis en même temps, je me dis, bah, ça me charge en fait. J'ai l'impression tellement que ça donne envie de rencontrer les gens que quand je vais rentrer sur scène, ça va être bon quoi. Parce que... Et c'est pour ça que je pense que c'est bon. Parce que j'avais envie de vous rencontrer, et j'avais envie de quitter cette solitude-là. Et puis il faisait très frais aussi, ça, c'était agréable.
Merci beaucoup. Merci Volmir Cordero.
Merci Volmir pour cet échange autour de votre spectacle Outrard. Merci à Sorour, aussi Russ Childs et Cécile Bouffard pour ce moment de partage autour de votre travail chorégraphique. Nous arrivons à la fin de cette émission en direct du Festival Extension Sauvage à la Cour des Arts de Combourg. Juste avant de clore cette seconde émission, Sarah, quelques mots pour annoncer tout simplement la suite du festival.
Oui, alors demain, rendez-vous à 14h30 pour un parcours dans les jardins du Château de la Balue à Bazouges-la-Pérouse. On y retrouvera le spectacle Farsi, dont on vient de parler avec Sorour, la performance de musicale de Tomoko Sauvage qui était vendredi soir au Château de Combourg, la trance, la danse trance de Betty Chomanga dans Mascarade et le duo hypnotique The Gyre pour le spectacle Tumbleweed. Donc quatre spectacles et la propriétaire du château également qui nous fera visiter les lieux afin de pleinement vivre l'expérience collective. On aura aussi droit à un atelier de hoop dance par Valérie Simon. On se glissera donc dans les cerceaux et on fera balancer nos hanches. On se retrouve également les 24 et 25 juin pour un week-end forêt autour d'expositions, de cinéma dans les bois avec le film de Miyazaki Nausicaa de la Vallée du Vent, des conférences, des siestes musicales avec Julien Tinet qui est ici présent ce soir et un atelier de dégustation de fleurs.
Eh bien, c'est... voilà pour la suite du festival. Merci beaucoup, un grand merci à Sarah qui... voilà, à quoi animer cette émission de Logosphère sur ces deux soirées. Un très grand merci aussi à toute l'équipe d'Extension Sauvage de nous avoir accueillis. C'était un grand plaisir et une grande joie. Et Logosphère sur les ondes d'univers en direct du Festival Extension Sauvage, c'est terminé pour ce soir. Vous pourrez retrouver très prochainement ces entretiens réalisés sur le site internet de la radio www.radio-univers.com. Merci aussi au public qui nous a suivis aussi sur la Cour des Arts de Combourg. C'était Logosphère en Extension Sauvage. Vous êtes bien sur les ondes d'univers et on continue avec Julien Tinet qui voilà va nous jouer un petit set. C'est parti.